Chapitre 38, pour une éducation équilibrée. Des conséquences éternelles, l'éducation est une œuvre dont les effets se feront sentir jusque dans les siècles infinis de l'éternité. Le vrai but de l'éducation, celui qui a créé l'homme a pourvu au développement de son corps, de son âme et de son esprit. Le succès de l'éducation dépend donc de la fidélité avec laquelle on se conforme au plan du Créateur. Au commencement, Dieu créa l'homme à son image et l'enrichit de facultés nobles et bien équilibrées. Par la chute et ses conséquences, ses dons ont été pervertis. Le péché a souillé, et presque oblitéré l'image de Dieu en l'homme. C'est pour restaurer cette image que le plan du salut a été formé et qu'un temps d'épreuve nous a été accordé. Revenir à notre perfection originelle, tel est l'objet principal de la vie présente et le vrai but de l'éducation. L'œuvre des parents et des pédagogues consiste donc à devenir collaborateurs de Dieu, dans la réalisation de son plan. Toutes les facultés doivent être développées, toutes les facultés intellectuelles, morales et physiques de l'homme sont un don de Dieu, et doivent être portées à leur plus haut degré de développement et de perfection. Mais cette culture ne doit pas être poursuivie dans un but égoïste. Le caractère de Dieu n'étant que bonté et amour, tous les talents qu'il nous a départis doivent être employés à sa gloire, et au relèvement de nos semblables. Aussi est-ce dans cet emploi que nous trouvons notre exercice le plus pur, le plus noble et le plus heureux. Ce qu'englobe l'éducation, la véritable éducation signifie plus qu'un certain programme d'études. Son champ est vaste, il inclut le développement harmonieux de toutes les capacités physiques et de toutes les facultés mentales. Cette éducation-là nous enseigne l'amour et la crainte de Dieu et constitue une préparation en vue de l'accomplissement fidèle des devoirs de la vie. Un développement harmonieux, quiconque désire être ouvrier avec Dieu doit chercher à perfectionner toutes les aptitudes de son corps et de son esprit. La véritable éducation, c'est l'épanouissement de nos facultés physiques, mentales et morales, en vue de l'accomplissement de nos devoirs, c'est la culture du corps, de l'esprit et de l'âme pour le service de Dieu. C'est la seule éducation qui subsistera jusque dans la vie éternelle. Développer des caractères bien équilibrés, le plan de Dieu était que le collège de Battle Creek atteigne un niveau de culture intellectuelle et morale plus élevé que dans toutes les institutions comparables de notre pays. Il faudrait inculquer aux jeunes la nécessité de cultiver leurs aptitudes physiques, mentales et morales, pour qu'ils puissent atteindre le plus haut degré en matière de connaissances scientifiques, mais que par la connaissance de Dieu, ils soient formés de manière à le glorifier, pour qu'ils soient à même de développer des caractères bien équilibrés, et qu'ainsi ils soient pleinement préparés à se rendre utiles dans ce monde, et acquièrent les qualifications morales requises pour la vie éternelle. Connaissances scientifiques et scripturaires, les écoles établies parmi nous impliquent de graves responsabilités, car de très grands intérêts sont en jeu. D'une manière spéciale, nos écoles sont en spectacle aux anges et aux hommes. Une connaissance scientifique dans tous les domaines est une puissance, et il entre dans les desseins de Dieu que les disciplines supérieures de la science soient enseignées dans nos écoles en vue de l'œuvre qui doit précéder les dernières scènes de l'histoire de notre monde. La vérité doit être propagée jusqu'aux extrémités de la terre par des porte-paroles formées pour cette tâche. Mais s'il est vrai que la connaissance scientifique est une puissance, la connaissance que Jésus en personne est venu communiquer au monde était celle de l'Évangile. La lumière de la vérité devait projeter ses rayons éclatants jusqu'aux régions les plus lointaines du globe, et l'acceptation ou le rejet du message de Dieu décidait de la destinée éternelle des âmes. Remonter aux sources de la vérité, tout être humain, créé à l'image de Dieu, possède une puissance semblable à celle du Créateur, le pouvoir personnel de penser et d'agir. Les hommes qui développent ce pouvoir sont des hommes prêts à assumer des responsabilités, des chefs de file, capables d'influencer les autres. C'est le rôle de la véritable éducation que de développer ce pouvoir, d'apprendre aux jeunes à penser par eux-mêmes, à ne pas se contenter d'être le reflet de la pensée des autres. Que les étudiants, au lieu de se borner à étudier ce qu'ont dit ou écrit les hommes, se tournent vers les sources de la vérité, vers les vastes espaces qu'offrent à leur recherche la nature et la révélation. Qu'ils se mettent face à leur devoir, à leur destinée, et leur pensée se déploiera, et prendra de la vigueur. Ce ne sont pas des mauviettes cultivées qui doivent sortir de nos institutions, mais des hommes solides, capables de penser et d'agir, des hommes qui dominent les circonstances et non qui les subissent, des hommes à l'esprit large, à la pensée claire, qui ont le courage de leurs convictions. Une éducation qui vise au développement du caractère, l'éducation et la formation des jeunes est une tâche importante et solennelle. Le grand objectif qui devrait être visé concerne le développement adéquat du caractère, pour que l'individu puisse assumer comme il convient les devoirs de la vie présente et accéder finalement à la vie future et immortelle. L'éternité révélera dans quelle mesure l'œuvre a été accomplie. Si les prédicateurs et les maîtres étaient pleinement conscients de leurs responsabilités, nous verrions un état de choses différent dans le monde d'aujourd'hui. Ces hommes ne comprennent pas l'importance et les conséquences de leurs tâches. Ce qui fait la valeur suprême de l'éducation, les étudiants, au collège d'Avondale, Australie, travaillent dur et de manière consciencieuse. Ils développent leur énergie nerveuse ainsi que la force et l'agilité de leurs muscles. Telle est la bonne formation qui permet à nos établissements scolaires de produire des jeunes gens qui ne sont ni faibles ni incompétents, qui ne souffrent pas d'une éducation déséquilibrée, mais qui ont bénéficié d'un développement complet sur le plan physique, mental et moral. Ceux qui ont pour tâche de former des caractères ne doivent pas oublier de poser le fondement qui fait de l'éducation la valeur suprême. Cette tâche exige de l'abnégation, mais cela doit être fait. S'il est mené comme il convient, l'exercice physique préparera les élèves en vue de l'effort mental. Mais l'exercice physique seul produirait forcément des hommes incomplets. L'effort physique associé à l'effort mental permet de maintenir l'esprit et le sens moral en bonne condition, et d'accomplir un meilleur travail. Grâce à cette formation, les étudiants sortiront de nos écoles nantis d'une éducation pour la vie pratique et capables d'utiliser au mieux leurs facultés intellectuelles. Les exercices physiques et mentaux doivent être menés de pair si nous voulons faire justice à nos élèves. Telle est la méthode que nous avons suivie ici, en Australie, avec pleine satisfaction, et ce, malgré les conditions défavorables dans lesquelles nos étudiants ont dû travailler. Lacunes constatées chez nos élèves, de nombreux élèves sont tellement pressés de terminer leurs études qu'ils ne font rien de manière approfondie. Rares sont ceux qui ont assez de courage et de maîtrise de soi pour agir conformément à des principes. La plupart d'entre eux ne comprennent pas le véritable but de l'éducation, et sont donc incapables d'agir en conséquence. Ils s'attachent à l'étude des mathématiques ou à celle des langues, mais négligent d'étudier ce qui est beaucoup plus important, le bonheur et le succès dans la vie. Parmi ceux qui sondent les profondeurs de la Terre avec les géologues ou le ciel avec les astronomes, nombreux sont les étudiants qui se désintéressent totalement de la merveilleuse mécanique de leur propre corps. D'autres peuvent citer sans peine le nombre d'os que comporte le squelette humain et décrire exactement tous les organes, mais en ce qui concerne les lois de la santé et la guérison des maladies, ils sont aussi ignorants que si la vie physique était régie par un destin aveugle et non par des lois précises et invariables. Les élèves qui ont acquis une connaissance livresque sans avoir obtenu la connaissance d'un travail pratique ne sauraient prétendre avoir reçu une éducation équilibrée. Les énergies qui auraient dû être employées dans différents domaines ont été réduites à l'inaction. L'éducation ne consiste pas à utiliser uniquement le cerveau. Pour tous les jeunes, l'exercice physique constitue une partie essentielle de leur formation. Si l'étudiant n'a pas appris à faire un travail utile, un aspect important de son éducation laisse à désirer. L'être tout entier doit être mis à réquisition. On a dit et écrit beaucoup de choses concernant la nécessité de développer l'esprit au maximum. Parfois, cela a favorisé l'idée que si l'intelligence est développée au maximum de ses capacités, il en résultera un renforcement des énergies physiques et morales en vue du développement de l'homme tout entier. En réalité, le temps et l'expérience ont montré que c'est là une erreur. En effet, on a vu des hommes et des femmes sortir du collège avec des diplômes, mais qui par ailleurs étaient totalement incapables de se servir de leur corps, merveille physique dont Dieu les a pourvus. Le corps tout entier est destiné à l'action, et non à l'inaction. Si les capacités physiques ne sont pas mises conjointement à réquisition avec les facultés mentales, celles-ci devront subir une trop grande fatigue. À moins que chaque partie de l'organisme humain ne remplisse le rôle qui lui est assigné, les facultés mentales ne peuvent être utilisées au maximum de leurs capacités et de façon durable. Les capacités naturelles doivent être régies par les lois naturelles, et les facultés doivent être éduquées de manière qu'elles agissent en harmonie avec ces lois. Les enseignants de nos écoles ne sauraient négliger aucun de ces points sans manquer à leur devoir. La vanité peut inciter certains d'entre eux à viser des niveaux élevés de succès intellectuel afin que leurs élèves obtiennent de brillants résultats. Mais pour ce qui est des acquisitions solides, celles qui sont essentielles pour préparer hommes et femmes à faire face à toute éventualité dans la vie concrète, de tels élèves ne sont qu'à moitié préparés à réussir dans la vie. Leur éducation déficiente les conduit souvent à l'échec, quelle que soit la branche d'activité où ils s'engagent. Ne pas esquiver les difficultés de la vie, il faut que les jeunes comprennent que l'éducation ne consiste pas à savoir échapper aux tâches désagréables, aux fardeaux pesants de la vie. Mais le propos de toute éducation est d'alléger le travail en apportant des méthodes meilleures et des aspirations plus élevées. Le véritable but de la vie n'est pas de s'assurer les plus grands profits, mais d'honorer le Créateur en accomplissant sa part dans l'œuvre du monde, et en accordant son aide aux faibles et aux ignorants. Encore et toujours un développement harmonieux, le bon usage de sa personne est la leçon la plus précieuse que l'on puisse apprendre. Nous ne devons pas faire un travail mental, et nous en tenir là, ou faire de l'exercice physique, un point c'est tout. Nous devons faire le meilleur usage possible des différentes parties qui composent la machine humaine, le cerveau, les os, les muscles, la tête et le cœur. L'ignorance ne favorise pas la spiritualité, les jeunes gens ne devraient pas entreprendre d'expliquer les Écritures et de donner des conférences sur les prophéties quand ils ne connaissent pas les importantes vérités bibliques qu'ils essaient d'exposer à d'autres. Par ailleurs, ils sont parfois déficients dans les branches élémentaires du savoir, et se montrent incapables de faire le bien qu'ils pourraient faire s'ils avaient bénéficié de l'éducation dispensée dans un bon établissement scolaire. L'ignorance ne favorise ni l'humilité ni la spiritualité de ceux qui se déclarent disciples du Christ. Un chrétien cultivé appréciera même mieux les vérités de la parole divine et le Christ peut être particulièrement glorifié par ceux qui le servent intelligemment. Le grand objectif de l'éducation est de nous permettre d'employer les capacités que le Seigneur nous a données de manière à témoigner au mieux de la religion de la Bible et de faire triompher la gloire de Dieu. La nécessité de l'effort, les maîtres devraient amener les élèves à penser de telle sorte qu'ils comprennent la vérité d'une façon personnelle. L'enseignant ne doit pas se contenter d'expliquer, et il ne suffit pas que ses élèves souscrivent à ce qu'il dit. Leur curiosité doit être éveillée et l'élève doit pouvoir énoncer la vérité en ses propres termes, montrant ainsi qu'il en comprend la force, qu'il la met en pratique. Grâce à des efforts soutenus, les vérités fondamentales devraient se graver dans l'esprit. Cela peut demander du temps, mais cette méthode vaut mieux qu'une étude rapide et superficielle des sujets importants. Le Seigneur veut que nos écoles surpassent les écoles laïques, parce qu'elles ont pour mission de le représenter. Les hommes qui sont vraiment en contact avec Dieu montreront au monde qu'ils ont à leur tête plus qu'un homme. Des jalons précis, que les jeunes plantent des jalons bien définis qui pourront les guider en cas de besoin. Quand une difficulté survient et nécessite des aptitudes physiques bien développées, un esprit lucide, fort et pratique, quand un travail pénible doit être accompli et demande une grande application et que des problèmes ne peuvent être résolus qu'en recherchant la sagesse divine, les jeunes qui ont appris à surmonter les obstacles grâce à des efforts laborieux seront capables de répondre à l'appel « Me voici, envoie-moi ». Que le cœur des jeunes gens et des jeunes filles soit aussi limpide que le cristal. Que leurs pensées ne soient pas vulgaires, mais qu'elles soient sanctifiées par la vertu et la sainteté. Il ne saurait en être autrement. Grâce aux pensées pures, sanctifiées par l'Esprit, leurs vies peuvent être affinées, édifier, ennoblit. Nécessité de cultiver de bonnes habitudes, l'objectif précis de tout jeune devrait être de viser haut dans tous ses plans en vue de l'œuvre de sa vie entière. Dans tous les domaines, adoptez pour votre gouverne les critères énoncés dans la parole de Dieu. Tel est le devoir précis du chrétien, et tel devrait être aussi celui auquel il prend plaisir. Cultivez le respect de vous-même car vous êtes un bien que le Christ a racheté. Si vous parvenez à cultiver de bonnes habitudes, à progresser dans ce qui est noble et juste, vous pourrez exercer une influence qui sera appréciée de tous. Vivez pour quelque chose d'autre que vous-même. Si vos motivations sont pures et désintéressées, si vous êtes constamment à la recherche d'un travail qui doit être accompli, si vous êtes toujours à l'affût des actes de bonté et de délicatesse, vous construisez en réalité pour vous-même. Telle est l'œuvre que Dieu demande à tous les enfants et à tous les jeunes d'accomplir. Apprendre à subvenir à ses propres besoins, beaucoup d'étudiants s'assureraient une éducation de grande valeur s'ils subvenaient eux-mêmes à leurs propres besoins. Qu'au lieu de contracter des dettes ou de dépendre de l'abnégation de leurs parents, ils comptent sur eux-mêmes. Ils apprendront ainsi la valeur de l'argent, du temps, de la force, des occasions, et ne se laisseront pas aller à des habitudes de paresse et de gaspillage. Ils apprendront l'économie, l'application, l'organisation, la persévérance, et s'ils maîtrisent ces qualités, ils seront alors solidement armés pour la bataille de la vie. Leurs efforts pour se prendre en charge mettraient les écoles à l'abri de ces dettes contre lesquelles tant d'entre elles se débattent et qui limitent si souvent leurs possibilités. La jeunesse peut jouer un rôle important, le désordre règne partout dans le monde, et une transformation radicale s'impose. L'éducation donnée à la jeunesse est le seul remède efficace au désarroi de la société. L'enseignement de l'agriculture dans nos écoles pourraient aussi aider tant de gens au chômage. Des milliers d'êtres sans ressources, affamés, qui viennent chaque jour grossir les rangs des délinquants, pourraient se prendre en charge, mener une vie heureuse, saine et indépendante si on pouvait leur apprendre à cultiver le sol avec zèle et compétence. Une école qui se prolongera jusque dans l'éternité, à l'école du Christ, les élèves ne reçoivent jamais de diplôme. Parmi eux, il y a des jeunes et des aînés. Ceux qui ont prêté l'oreille aux instructions du divin maître ne cessent de progresser en sagesse, en raffinement, en grandeur d'âme, et ils se préparent ainsi à entrer dans l'école supérieure où les progrès se poursuivront durant l'éternité. Une ambition légitime, chers jeunes, quel est le but et l'objectif de votre vie ? Aspirez-vous après une éducation qui vous permettra de vous assurer une réputation et une position sociale dans le monde ? Avez-vous des pensées que vous n'osez pas exprimer ? Ambitionnez-vous d'atteindre un jour le summum de la grandeur intellectuelle, de siéger dans des assemblées délibérantes et législatives et de prêter votre concours à l'élaboration des lois du pays ? De telles aspirations n'ont rien de répréhensible. Chacun de vous peut faire son chemin dans la vie. Vous ne sauriez vous satisfaire d'objectifs mesquins. Visez haut et ne vous épargnez aucun effort pour atteindre votre idéal. La connaissance essentielle, que jeunes gens et jeunes filles poursuivent leurs études aussi rapidement et aussi loin que possible. Tout en étudiant, qu'ils fassent part de leurs connaissances. Ainsi, leur esprit se développera et se disciplinera. C'est l'usage que l'on fait des connaissances acquises qui détermine la valeur de l'éducation reçue. Consacrer beaucoup de temps à l'étude, sans communiquer ce que l'on a appris, est plus souvent un obstacle qu'une aide au développement réel. Il faut apprendre à la maison et à l'école la manière de s'y prendre. Quelle que soit sa profession, l'homme doit être toute sa vie un étudiant et un maître. L'éducation primordiale que les jeunes doivent acquérir aujourd'hui, et qui les qualifiera en vue des degrés supérieurs de l'école d'en haut, est celle qui leur enseignera comment faire connaître la volonté divine au monde. Tout enfant de Dieu, tout jeune homme ou toute jeune fille se doit de posséder une certaine connaissance de lui-même. Son corps est l'habitation physique qu'il a reçue de Dieu, et il ne devrait pas ignorer les lois qui lui permettent de le garder en bonne santé. Tous devraient avoir une bonne compréhension des branches essentielles de l'éducation. L'apprentissage d'un métier est en outre indispensable aux jeunes gens comme aux jeunes filles afin qu'ils acquièrent le sens pratique de l'existence et qu'ils puissent remplir les devoirs de la vie journalière. À tout cela vient s'ajouter une connaissance théorique et pratique des diverses activités du travail missionnaire. Mieux que des études universitaires, il est proche, le grand jour de l'Éternel, et il faut avertir le monde. Des milliers et des milliers de jeunes devraient se consacrer à cette œuvre. Que les éducateurs chrétiens encouragent et aident les jeunes qui leur sont confiés à se préparer à rejoindre leur rang. Cette tâche sera pour les jeunes d'un plus grand profit qu'aucune autre. Tous ceux qui s'engagent sur ce chemin sont les assistants de Dieu, les associés des anges, ou plutôt les intermédiaires humains à travers lesquels ceux-ci accomplissent leur mission, les anges parlent par leur bouche, travaillent avec leurs mains. Et les ouvriers qui collaborent avec les puissances célestes bénéficient de leur éducation et de leur expérience. Quel cours universitaire pourrait en faire autant? Les étudiants doivent mettre leurs connaissances à profit, pour qu'ils puissent compléter leur éducation. Il faut donner aux étudiants le temps nécessaire pour faire du travail d'évangélisation, par conséquent du temps pour qu'ils se rendent compte des besoins spirituels de la localité où ils habitent. Ils ne devraient pas être surchargés d'études au point de ne pas pouvoir mettre à profit les connaissances qu'ils ont acquises. Ils devraient être encouragés à déployer de sérieux efforts missionnaires auprès de ceux qui sont dans l'erreur, en entrant en contact avec eux et en les conduisant dans la vérité. S'ils travaillent ainsi avec humilité, en recherchant la sagesse du Christ, en priant et en veillant, ils pourront faire part aux autres des connaissances qui ont enrichi leur vie.